une prise en charge des enfants à partir de ce moment du culte. Alors j'avais préparé un diapo, mais avec les contretemps techniques, on va s'en passer aujourd'hui. Mais je vous dirai bien quand est-ce que c'est le premier point, deuxième point, troisième point. Alors êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste actuellement? Optimiste ou pessimiste? Comment voyez-vous l'avenir de notre monde? Alors il me semble que ce monde connaît des périodes troublées depuis bien longtemps, mais ces derniers temps nous le percevons d'une manière plus concrète en France, car cela nous touche d'un peu plus près. Alors ça a commencé avec le Covid, qui a mis en évidence la fragilité de notre système de santé, les limites de la science, même si elle nous rend service. Puis la guerre en Ukraine a commencé, et alors en plus de toucher notre portefeuille à la station-service, elle touche surtout des victimes. Et cet été, on connaît une canicule, alors c'est pas la première, c'est pas la dernière, mais nous voyons d'autant plus les conséquences du dérèglement climatique. Mais comme c'est l'été, nous voulons peut-être oublier un instant tout ce qui ne va pas pour se concentrer sur la famille, le repos, le jardinage, les apéros. Mais la vie se résume-t-elle à cela? Et notre société, notre économie, notre monde sont-ils destinés à se dégrader? Je pense que nous avons tous conscience, au fond de nous, que la vie ne peut pas se résumer à ce que nous vivons sur Terre. De tout temps, l'humanité a conscience qu'il y a quelque chose de plus que notre monde matériel. Rien que la pensée, ce n'est pas quelque chose de matériel. La Bible affirme que notre vie a une suite après la mort. Et Sylvain en a aussi évoqué dans les passages qu'il a lus. Alors moi j'aime beaucoup les films où il y a ce qu'on appelle un twist final. Alors en français on dirait un rebondissement final. Ça fait mieux de dire un twist final. Une fin inattendue. Une révélation qui a lieu tout à la fin de l'histoire et qui change toute notre manière de voir le film ou l'histoire. Parce qu'il y a aussi dans les romans, dans les histoires. Alors l'un des twists finaux les plus connus a lieu dans Star Wars. Quand Dark Vador, le méchant principal qui est sur le point de mourir, fait une révélation inattendue au héros du film, Luke Skywalker. Alors je ne vais pas le faire avec les bruitages, etc. Je ne le fais pas bien. Mais en gros, il lui dit, Luke, je suis ton père. Je raconte la fin, je suis désolé, mais je pense que la fin est tellement connue que je pense pas que je révèle quelque chose de très, très secret ou quelque chose à garder. Et puis ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'ils ont déjà eu le temps depuis des décennies de le voir, alors je ne pense pas qu'ils vont le voir de si tôt. Ah, bah voilà, encore, c'est la force. Voilà, je vais prendre ce micro comme la dernière fois. C'est un peu un mystère, ce... Alors voilà, ce sont souvent des rebondissements inattendus qui changent toute l'histoire. Dans la Bible, Jésus annonce un twist final à la fin des temps. Il dit à plusieurs reprises que dans le royaume de Dieu, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors si vous pensez que le monde va se dégrader au point de se détruire, si vous pensez que notre vie sur Terre est nulle, que l'humanité est corrompue, que rien ne changera et que de toute façon nous allons tous mourir, eh bien vous n'avez pas entièrement tort. Mais il y a un twist final. Il y a autre chose de mieux. Mais attention, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Pour illustrer cette affirmation, les auteurs des évangiles ont sélectionné plusieurs anecdotes de la vie de Jésus. Et je vous propose de lire l'un de ces récits ce matin dans l'évangile selon Matthieu. Chapitre 19, c'est les versets 16 à 26. Matthieu 19, 16 à 26. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels ? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alors le récit commence par cette question posée par le jeune homme riche. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» C'est mon premier point. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Ah ben voilà, c'est apparu. Le jeune homme voit en Jésus un maître censé savoir ce qui est bon de faire pour avoir la vie éternelle. La plupart des gens pensent aujourd'hui que s'il y a un paradis, alors il suffit de faire le bien pour y accéder. Si je fais le bien, et si un paradis existe, alors j'y serai. Quelles que soient nos croyances, peu importe, tant que l'on fait le bien, il n'y a pas de raison d'être refusé au paradis. Voilà la pensée un peu ambiante. Le jeune homme riche veut certainement être conforté dans sa croyance. Jésus lui répond d'abord par une question rhétorique. « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. » Si l'on veut une traduction plus exacte, Jésus dit précisément « Un seul est le bon. » Autrement dit, Dieu seul est bon. Par ce début de réponse, Jésus le fait déjà réfléchir. Si Dieu est le seul à être parfaitement bon, peux-tu, toi, atteindre le même niveau que lui ? Comparé à Dieu, peux-tu te prétendre bon ? Jésus pose la question, mais il ne va pas plus loin. Il veut le faire réfléchir. Mais il sait que l'homme aura du mal à se remettre en question. Alors il l'amène un peu plus loin dans la discussion, pour qu'il se rende compte de ses limites. Et je pense que nous pourrions ressembler à ce jeune homme. Quand nous prétendons être assez bons pour mériter le paradis, n'avons-nous pas le même raisonnement que lui ? Et ne sommes-nous pas, nous aussi, souvent réticents à nous remettre en question ? Alors, puisque Dieu est la référence du jeune homme, Jésus le renvoie à la loi de Dieu. C'est la deuxième partie de la réponse de Jésus. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. À ce stade de la discussion, le jeune homme devait être assez satisfait, car c'est quelqu'un qui respecte les commandements. Mais il veut plus de précision. Lesquels ? Demande-t-il. Jésus cite alors la moitié des 10 commandements. Nous verrons dans un instant pourquoi il ne cite que la moitié des 10 commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cette réponse satisfait encore notre homme qui annonce à Jésus : « J'ai respecté tous ces commandements. Que me manque-t-il encore ?» Cet homme est manifestement quelqu'un de bien, il ne fait de mal à personne, il ne pratique pas le faux témoignage, autrement dit, il ne ment pas, il honore ses parents, il vient en aide à son prochain puisqu'il aime son prochain comme lui-même, d'après ses dires. Mais il pose une question qui révèle un peu son état d'esprit. C'est mon deuxième point. Que me manque-t-il encore ? Sa précédente question était « Que dois-je faire ?» Et là, deuxièmement, « Que me manque-t-il encore ?» Même si cet homme fait le bien autour de lui, ses questions sont centrées sur lui. Que dois-je faire? Que me manque-t-il encore? Cette dernière question laisse entendre qu'il aimerait bien tout avoir. Il est déjà riche, il pratique déjà les commandements, mais que lui manque-t-il encore? Alors, quelle est sa motivation? Il dit qu'il veut savoir que faire pour avoir la vie éternelle, mais j'ai aussi l'impression qu'il aimerait bien avoir l'approbation de Jésus, du peuple et de Dieu. Je pense que nous aussi, parfois, nous pouvons avoir l'impression d'avoir tout ce qu'il faut. Une vie sans trop de soucis, une maison, un jardin, une famille, des amis, des week-ends, des vacances, un travail, à manger tous les jours, une vie assez honnête pour penser que si le paradis existe, nous avons bien notre place. Que nous manque-t-il encore pour être bien vu de Dieu ? La réponse de Jésus constitue un premier rebondissement. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. On peut noter qu'au départ, l'homme voulait savoir quoi faire pour avoir la vie éternelle. Ensuite, cela évolue. Il veut maintenant savoir ce qui lui manque. Comme lorsqu'un collectionneur cherche à savoir ce qui lui manque pour compléter sa collection. Jésus entre dans la logique du jeune homme. Si tu veux être parfait, voici ce que tu dois faire. On pourrait aussi traduire « si tu veux être complètement vertueux » ou mieux encore « si tu veux être accompli ». L'homme cherche ce qui lui manque et Jésus et la réponse de Jésus lui permet de combler entièrement ce manque. Il doit tout vendre, tout donner aux pauvres, puis suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement le suivre géographiquement. Suivre Jésus, c'est marcher dans ses pas, vivre comme il a vécu, aimer comme il a vécu ses ennemis, se sacrifier comme il s'est sacrifié. Suivre Jésus implique un abandon total et cela s'appelle la foi, la confiance. L'homme riche avait confiance en ses richesses. En cas d'imprévu, il aurait eu de quoi subvenir à ses besoins. Il avait confiance en son argent. Il se sentait en sécurité grâce à ses richesses. Il avait aussi confiance en sa personne. Il pratiquait assez le bien pour penser avoir une place au paradis. Mais celui qui veut suivre Jésus ne peut pas avoir deux maîtres. Le maître, c'est celui ou ceux qui dirigent notre vie, celui ou ce pourquoi nous vivons. Cet homme vivait pour alimenter ses satisfactions personnelles, ses richesses et son estime de soi. Il avait confiance en ces choses, ça le mettait en sécurité. Il avait un maître, voire même deux maîtres ou plus, ses richesses et ses bonnes œuvres. C'est cela qui lui procurait satisfaction. Et nous, quels sont nos maîtres? Pour qui et pourquoi vivons-nous? Qu'est-ce qui dirige nos vies? Qu'est-ce qui nous préoccupe jour après jour? Qu'est-ce qui nous motive pour nous lever le matin et vivre la journée? Qu'est-ce que nous attendons de la fin de la semaine, de la fin de notre carrière, de notre retraite, de nos vacances? Nous avons, je pense, tous un ou plusieurs maîtres. Jésus lui dit, à cet homme que pour être accompli, il doit lâcher ses maîtres pour suivre un seul maître. Alors cela ne signifie pas qu'il faut tout vendre, tout quitter, tout abandonner, abandonner nos êtres chers. Non, cela signifie que toutes ces choses et ces personnes ne devraient pas diriger nos vies. Ce récit n'est pas une incitation à vendre tous ses biens pour donner aux pauvres. Jésus lui a demandé ça spécifiquement à lui. C'était une demande personnalisée. Les richesses ne sont pas une chose mauvaise dans la Bible. Mais dans le cas de cet homme, il mettait sa foi dans ses richesses et dans ses bonnes œuvres, plus qu'en Dieu. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'en va tout triste, car il n'arrive pas, à ce stade-là de sa vie, à lâcher ses maîtres. Pourtant, Jésus lui promet un trésor dans le ciel, et donc la vie éternelle, mais il n'y arrive pas. Jésus lui a fait prendre conscience qu'il arrive à respecter seulement la moitié des commandements, des 10 commandements, mais pas l'autre moitié des 10 commandements. Les 5 premiers commandements sont axés sur Dieu et notre relation avec Dieu, avec lui. Voici par exemple le 1er commandement. Alors c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël dans le livre de l'Exode chapitre 20. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Sur le papier, ce commandement semblait facile. Mais en réalité, nous avons probablement des dieux dans notre vie, des choses ou des personnes qui ont une telle influence sur nous qu'ils deviennent nos maîtres. La liberté, ce n'est pas d'avoir aucun maître. De fait, nous avons tous des maîtres. La liberté consiste à suivre le bon maître, celui qui nous veut du bien, celui qui nous dirige vers l'accomplissement de notre vie, ce pourquoi nous avons été créés. Je conclus par mon 3e et dernier point. Le jeune homme s'en alla. Il aurait pu s'en aller pour vendre ses biens, mais le texte nous précise qu'il s'en va tout triste. Il s'en alla tout triste car il avait de grands biens et il y tenait trop. Et nous, comment allons-nous nous en aller ce matin après avoir entendu ce récit ? Jésus termine en disant qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors les disciples réagissent et se demandent « Qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Personnellement, je vous avoue que j'ai du mal à toujours faire confiance en Dieu. Lorsque des difficultés de la vie surviennent, lorsque l'avenir devient inquiétant, je cherche souvent des solutions humaines. Je réfléchis avec une logique humaine et je peux être parfois tracassé. Si je devais tenter d'accéder au royaume des cieux par mes propres moyens, par ma propre capacité à compter sur Dieu, par ma propre capacité à respecter les commandements, alors je n'y arriverai pas. Mais ce qui m'est impossible à moi, cela est possible à Dieu. Ce que je trouve de fascinant dans ce récit, c'est que Jésus annonce à la fois les exigences pour entrer dans la vie éternelle et à la fois la grâce, car nous ne pouvons pas satisfaire toutes ces exigences. Nous sommes appelés à l'humilité et à reconnaître notre propre incapacité à suivre Dieu. Et alors que nous nous rendons compte de nos propres limites, de ce qui nous manque, Jésus annonce que ce qu'il nous est impossible de faire, Dieu peut le faire pour nous. Le salut est rendu possible, non parce que nous faisons le bien, mais parce que Dieu nous fait grâce. Alors cela ne signifie pas que nous pouvons vivre comme bon nous semble. Si nous avons vraiment compris la grâce, nous chercherons à suivre Jésus. Quelqu'un qui a vraiment compris la grâce a le souhait et a le souhait quotidien de suivre Jésus, de marcher derrière ses pas, de marcher sur ses pas. Mais le point de départ, ce n'est pas notre propre action, c'est la grâce de Dieu et l'acceptation de cette grâce. Comment allons-nous nous en aller ce matin? Le jeune homme s'en est allé en gardant ses maîtres, en gardant ses richesses et ses bonnes œuvres. Jésus nous appelle à nous en aller pour nous débarrasser de tous nos maîtres, en nous débarrassant de tous nos maîtres, puis de le suivre, lui le messager de la grâce. Et si nous n'y arrivons pas, confessons-le lui, et il fera pour nous ce que nous n'arrivons pas à faire. Les premiers, ceux qui comptent sur leurs richesses, sur leurs bonnes œuvres, les premiers seront les derniers. Et les derniers, ceux qui se reconnaissent incapables, indignes, seront les premiers. Amen. Je vous invite à prendre deux chants suite à ce texte et à ce qui a été entendu. Christ est la lumière, pour commencer. Thank you.